Solveig et moi, on est très heureux d'accueillir Marc Dufault, ici présent, réalisateur avec Thierry Villeneuve d'un film consacré à Daniel Darc, mais qui a aussi travaillé à d'autres projets, et notamment sur la scène punk en France, hein, ce qui fait qu'on est vraiment, vraiment connecté avec l'objet. Nous avons invité Marc aujourd'hui comme grand témoin pour cet entretien croisé. Alors, j'aurai quelques questions à lui poser et puis il y répondra, hein. Enfin, j'espère qu'il va y répondre. Et puis projeter quelques images. Et puis aussi, je souhaiterais qu'on donne la parole à la salle, hein, parce que c'est un petit peu la tendance du projet, hein, l'interaction. Voilà. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour. Moi, j'ai une première question à te poser et je sais que tu as répondu moult fois, mais peut-être pour la salle, c'est important. C'est ça. Consacrer un film à la vie de Daniel Darc. Alors, tu répondras sur le volet intime, sur ta connaissance de Daniel, etc. Mais pourquoi l'avoir appelé Pieces of My Life? Pourquoi ce titre?
Pieces of My Life, en fait, c'est le titre d'une chanson de Presley qui date de.
On peut monter le son,
ouais. Ah ouais, je parle jamais de.
Je parle bien fort.
Là, ça va? Ouais. Ouais, donc c'est le titre d'une chanson d'Elvis Presley, d'un album qui s'appelle Elvis Today. Et c'est une chanson qu'on écoutait très, très, très souvent avec Daniel. Et il y avait une prise, parce qu'en fait, on avait toutes les prises de cette chanson en studio. Et sur une des prises, sur le moment du fade-in, la voix de Presley se casse. Et il est à moitié en larmes en disant « Dieu, aide-moi à assembler les pièces de ma vie ». Voilà, et c'était un truc qui nous avait marqué. Donc quand on a commencé le film, c'était le titre provisoire qu'on avait donné au départ. Je pense qu'on pensait pas le garder, quoi. Et puis parce qu'en fait, voilà, on a tourné autour de l'idée pièce de ma vie, pieces of my life, et puis finalement on a gardé le titre de la chanson d'Elvis, voilà. Parce que c'était un morceau qui nous touchait vraiment beaucoup, et puis c'était approprié avec le film, avec la nature du film et le montage qu'on a fait. C'est un peu comme des morceaux d'un puzzle qu'on a essayé d'assembler. Donc je trouve que ça faisait sens.
Okay, merci. Tu vas nous raconter peut-être un petit peu ta rencontre avec Daniel. Moi, en préambule, je voudrais dire que la question pourrait se poser finalement de savoir si quand on parle de Daniel Darc, on est ou pas en lien avec cette scène punk française dont on parle depuis ce matin. Bon, t'étais pas là, mais bon, j'ai donné mon point de vue sur l'idée que j'avais de la scène punk, c'est-à-dire que le punk reste un objet extrêmement paradoxal, extrêmement riche en perpétuelle réinvention. J'ai le souvenir, on en avait déjà discuté, que à l'époque, quand Taxi Girl jouait, Taxi Girl qui était produit par Jean-Jacques Burnel des Stranglers, on les appelait les Stranglers français. Donc il y avait cette connexion avec la scène anglaise. Et je rappellerai aussi que c'est Jet Black, hein, qui joue sur l'album, hein, Jet le Noir. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'ancrage de Daniel dans cette scène punk ou pas? Comment il se situait par rapport à cette scène?
En fait, c'était un peu, c'est une espèce de vague qui était à Paris, c'est toutes les années 75, 79, où voilà, Daniel devait avoir une quinzaine d'années, et comme une bonne cinquantaine de personnes qui ont fait constituer après la première scène punk française, il traînait dans les mêmes endroits qu'eux. Il y a eu des endroits comme ça où il y avait la boutique de Zermati, il y avait Harry Cover, qui étaient des lieux où on pouvait acheter des disques. Et puis, oui, il a quand même été pris là-dedans très très tôt, quoi. Enfin, et il a côtoyé, en fait, les gens se connaissaient vachement. Et c'était, alors, d'après ce que me disait Daniel, ils n'étaient pas très nombreux, mais enfin, c'est tous des gens qui ont fait quelque chose ensuite dans la musique, la plupart. Et voilà. Et donc, un peu comme tous ces gens-là, donc t'as une quinzaine d'années, tu vas au lycée, il a rencontré des gens avec qui ils avaient des affinités musicales, ils ont monté un groupe, parce que c'était un peu la liberté. Le truc du punk, c'était ça, c'était monte sur scène, même si tu sais pas jouer, tu fais ce que t'as à faire. Donc voilà, je pense qu'ils, oui, ils étaient bien encapsulés là-dedans, mais Taxi Girl, à un moment donné, on appelait ça la deuxième vague, parce que voilà, la première étant Asphalt Jungle.
Moi, j'ai le sentiment que ce qu'on connaît, ce qu'on a retenu évidemment de Taxi Girl, Chercher le garçon, cette espèce d'immense tube, ça a un petit peu, et puis ce côté produit, hein, dans la perspective, on va, je mets des guillemets, un new wave de l'époque.
Ouais, ouais.
Ça a un petit peu occulté quelque chose qu'on voit plus, c'est-à-dire le côté ravageur, désespéré, hyper offensif de tout ce gang de jeunes gens. Et
ça a été l'ambiguïté fondamentale de ce qu'on a appelé la deuxième vague, c'était que avec le titre d'Actuel qui avait titré Les jeunes gens modernes. Donc c'était en plus une époque où il y avait toute une histoire de crédibilité, etc. Donc effectivement, Taxi Girl était un petit peu dans une espèce de position paradoxale où ils étaient très produits, ils avaient un manager très malin qui faisait des coups, ils avaient une image clean, mais ça n'a pas duré très très longtemps en fait.
Oui.
Et Daniel était dans cette espèce de pas d'ambiguïté, lui il le prenait très mal, hein, en fait, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il en a au départ rajouté un peu de tous les côtés pour montrer que Taxi Girl c'était pas un doshine, quoi.
Oui, et j'ai envie de dire presque malheureusement, sont tombés dans le misérabilisme. On voit que c'est quand même un groupe qui a été totalement décimé, comme beaucoup de groupes punk.
C'était le premier. Ils ont appelé ça le premier mort du punk français. C'était Pierre Volson qui est mort très vite, en 81, je crois. Mais après, l'histoire du groupe, c'est qu'ils commencent à 5 et ils finissent à 2. Voilà. Mais il y a un mort, mais il y a un mec qui s'est barré très vite. Stéphane Évrard, je crois. Il y a Pierre est mort. Et ensuite, ils étaient 3 et il y a eu des tensions entre Mirouez et Laurent. Et donc très vite, Laurent vient de disparaître.
Tu peux nous raconter un petit peu, mais brièvement, ta rencontre avec Daniel et finalement, même si c'est un petit peu sur le long terme, comment est venu pas l'idée du film, mais l'envie vraiment d'achever, de réaliser quelque chose autour de la vie de Daniel et Taxi Girl, mais de Daniel essentiellement.
Mais en fait, j'ai rencontré Daniel en 90. C'était à l'époque où je voulais faire des films et je l'avais vu sur scène au Gibus. Alors c'était une époque où, en fait, j'ai toujours pensé que le Gibus c'était le moment où sa carrière avait une espèce de point de rupture entre l'image qu'il avait donc toutes les années 80 à Paris où il était, il y avait une espèce déjà d'espèce d'aura comme ça qui s'était créée autour de lui, et puis les années 90 qui ont été les années où il a disparu. Mais c'est un peu bizarre parce que en même temps, il a sorti un disque, il a fait des choses, mais bon, voilà, ça n'avait pas d'écho. Et donc, ce concert m'avait vraiment marqué, vachement. Et voilà, je suis sorti en me disant, je veux faire un film avec lui. Et donc, j'ai écrit un synopsis, je lui ai envoyé. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis plusieurs mois à le joindre. Effectivement, il était insaisissable. Je n'arrivais pas à le contacter. D'ailleurs, ça a été un moment important, parce que c'était à chaque fois... j'allais dans un endroit, il venait de partir, quoi. C'était toujours comme ça. Donc il y avait plein de rumeurs qui traînaient. Il était à l'hôpital, on disait en prison, enfin un peu partout. Et j'ai finalement réussi à lui faire parvenir le synopsis. Et puis voilà, on s'est donné rendez-vous, on s'est vu. Et puis on a commencé à travailler sur l'idée d'un. Alors moi, je voulais vraiment faire un long métrage, donc 91. Voilà, je lui ai dit, je voudrais faire un long métrage sur toi. Il n'y a pas de long métrage sur des. Qui sont sortis, j'aimerais vraiment aller jusqu'au bout de ce truc, et on a commencé comme ça, travailler là-dessus. Finalement, ça s'est pas fait, il y a eu plein d'histoires, et j'ai quand même fait 2 films. Il y en a un qui a été acheté par la télé, qui est passé une fois ou deux, et puis et ça a été tellement compliqué que j'ai laissé tomber. Ensuite, ça m'a pris 5 ans et demi, et voilà. Mais c'était plus l'important n'était plus là, parce que j'étais surtout... voilà, il y a une histoire d'amitié qui est née de ça, donc c'était le plus important. Et puis, j'ai refait un film avec Daniel en 2004. Quand Crève-Cœur est sorti, ils m'ont demandé de faire un petit film pour accompagner l'album qui s'appelle Rêve-Cœur. Et on a monté ça avec Thierry Villeneuve, qui était le monteur sur ce film. Et puis, ensuite, il y a eu toute la période. Donc après, Daniel avait pas mal de succès, donc il était filmé, etc. Il n'y avait plus besoin que je fasse quoi que ce soit. Et puis en 2013, fin 2013, voilà, Thierry me dit, mais pourquoi tu as toutes ces images, pourquoi tu n'essaies pas d'en refaire un film, quoi. Et je me suis dit, il y a 25 ans, je voulais le faire, pourquoi pas essayer maintenant. Et je lui ai dit, ok, mais on le fait tous les deux. Et on va jusqu'au bout de ce projet. Et donc on a commencé comme ça, mais on a encore mis 4 ans et demi, 5 ans à le faire.
Ouais, moi, c'est ce qui m'a frappé dans le film, dont je l'ai vu. On a tout de suite le sentiment qu'effectivement, tu as accumulé une somme d'images et d'archives absolument incroyables. Mais j'ai envie de dire au plus près, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'intimité qu'il y a est absolument, absolument ouais, incroyable. On va en regarder quelques images tout à l'heure, mais cette intimité-là, elle est née au fil des ans, au fil du projet.
Ouais. En même temps, Dania était facile d'accès, donc il se laissait, quand il y avait une caméra, c'était. Mais c'est vrai qu'on tournait dans Pieces of My Life, pas dans les premiers, mais dans Pieces of My Life, il y a toutes les images que j'ai faites en vidéo, enfin toutes non, mais une partie des images que j'ai tournées en vidéo tout seul. On était tous les deux, donc effectivement pour la proximité, c'était plus facile. Et oui, effectivement, le fait de bien se connaître après, c'était. Ça donne des choses que nous on a trouvé assez intéressantes pour les montrer, mais voilà. Après, j'ai tourné beaucoup d'images, mais c'était, je venais pas voir tous les jours Daniel avec une caméra, c'était pas
le propos. J'imagine bien.
C'était souvent parce qu'on avait l'idée de faire un truc ensemble. Alors, on n'a pas, voilà, il y a quelques images qui viennent très peu dans le film, mais qui, à un moment donné, on voulait faire un court métrage ensemble, donc je l'avais filmé devant une. C'est le moment dans le film où il dit un poème, enfin voilà, tu vois, à chaque fois c'était l'idée de faire quelque chose, et puis je filmais beaucoup au départ, j'ai filmé énormément, à peu près tout, effectivement là les toutes premières fois c'était ça pour écrire les scénarios du long métrage que je voulais faire, et c'est ces images là qu'on a récupérées pour Pieces of My Life, quoi. Donc il y a de la vidéo, il y a du VHS, il y a du, enfin il y a tous les formats, quoi, il y a du 16 mm, du Super 16, hein, et on a réussi à faire de ça une espèce de masse qui soit, enfin de matériel qui soit utilisable.
De masse, c'était un peu dur avec toi. Enfin, pour l'avoir vu, c'est quand même une œuvre. Et puis.
Je parle des rushs.
Ouais. Ce que j'ai trouvé assez remarquable, c'est cette espèce de mise en abîme, parce que. Enfin, on va regarder quelques images, mais il y a Daniel, il y a aussi toi qui filmes Daniel, qui est filmé. Enfin, c'est ça. Et puis. C'est pas linéaire, c'est pas une chronologie, c'est des moments et on revient en arrière et on repart en avant. Donc il y a un objet filmique avec des aspérités et c'est très sensible. J'ai trouvé que c'est pas une masse.
Les rushs étaient une masse. Non, le film, on a beaucoup travaillé effectivement pour que ce soit.
Alors est-ce qu'on pourrait peut-être t'accaler quelques images?
Pas de Pieces of My Life. Mais en fait, il y a pas mal d'images de Pieces of My Life qui viennent de mes premiers films. Donc de toute façon,
tu veux nous montrer quelques images de Daniel et puis les commenter après.
J'avais calé sur le punk.
Ah bon, on va y revenir. C'est okay. pas grave. Parce que justement, c'était ma question suivante. Alors, Marc, en réalité, c'est pas simplement le réalisateur du film sur Daniel Darc. En fait, on se rend compte. Que dans son travail, il a très tôt exploré la scène punk. Il a travaillé, il a réalisé un film dans lequel on voit Elie Medeiros, on voit Jacques No, on voit toute la scène punk. En fait, je sais plus s'il y avait Metal Urbain, il me semble aussi.
Eric Débris. Ouais.
Voilà, ouais, Eric Débris. Et en fait, j'avais envie de te poser une question plus personnelle parce que finalement, c'est mettre en perspective ce que tu as fait avec Daniel, mais aussi avec la scène punk. En réalité, tu te situes où, toi, dans tout ça? C'est finalement ta propre vie que tu réinterprètes à travers ce regard sur la scène punk, c'est quoi?
Non, c'est des gens qui sont plus âgés que moi. Donc il y a forcément un truc qui me plaisait beaucoup là-dedans, enfin qui me parle encore, ce qu'on appelle l'accélération punk. C'est une attitude, c'est une façon de voir les choses. Donc voilà, c'était, et ça m'a, en fait, j'ai commencé ça au moment, je sais pas si on s'en souvient, mais il y avait le rock alternatif était très très en vogue, enfin marchait très bien. C'était un peu la fin d'ailleurs, oui. 89-88, et je sais pas pourquoi, moi j'ai eu envie de voilà, j'ai commencé, bah, le fait de connaître Daniel, voilà, m'a aussi projeté remonté vers 75-76, parce que historiquement c'est, il y a plein de choses qui se passent dans ces années là c'est les années Giscard d'Estaing, c'est les années avec de la censure, des choses comme ça, mais à côté de ça il y a toute une efflorescence d'une presse parallèle, et puis d'une musique qui a décidé d'en finir avec le rock progressif, etc. Donc, ouais, j'étais vachement intéressé par ça. Et en fait, comme pour financer le film sur Daniel, il était question de faire un film pour la télé, je me suis dit, on va prendre Daniel comme fil conducteur et on va évoquer toute cette période. C'était une période qui me penchait. En 90, ça faisait vachement sens de parler de ces gens-là parce que tous essayer de faire des choses, en continuer la musique ou avec des nouveaux groupes ou en solo. Et c'était avec des, ils inventaient, enfin pour moi, des gens comme Dao ont inventé la pop, quoi. Dao, au départ, il était à Rennes, il faisait des, il organisait des concerts punk, etc. Donc il était, c'était un mec actif là-dessus, et puis qui a inventé une autre façon de faire les choses. Et beaucoup ont évolué vers la pop. Elie Medeiros, Elie et Jacquenot, c'était, voilà, ils venaient des Stinky Toys, ils ont fait de la pop. Donc c'était marrant de voir le, enfin, c'était intéressant de montrer des gens l'évolution qu'ils avaient eue et ce qu'ils, et ce qu'ils continuaient à essayer de faire passer, parce que je trouve que dans les paroles, dans l'attitude, quelle que soit la musique, il y avait quelque chose qui restait de ça, du punk, quoi, voilà. Et donc, le film qui s'appelait Les Enfants de la Blanque était fait autour de cette scène-là. De cette scène.
Les Enfants de la Blanque. Ouais, Blanque Generation. Ouais.
Le titre m'a été imposé, hein, mais bon, c'était, c'est la seule chose que j'ai pas pu contrôler, c'est le titre du film. J'ai pas envie d'appeler ça Les Enfants de la Blanque, je trouvais pas ça très joli, mais voilà.
Nous, on est très intéressés dans le projet Peintre parce qu'on enquête, on travaille, on fait de la recherche sur cette scène. Et est-ce que tu considères finalement, c'est une question, hein, j'ai pas de réponse, que ton travail cinématographique, artistique, ça procède d'une certaine manière aussi d'une forme de regard, d'enquête sur cette scène-là, c'est une manière de rendre quelque chose de ces sensations, de ces émotions, de ce qui te touche.
Ouais. Mais après, je te disais que j'avais arrêté le cinéma à cause du film, parce que j'étais, voilà, on n'avait pas pu l'emmener au cinéma, et puis ça s'est très très mal passé avec la production, et j'étais un peu, enfin, j'en avais marre. Je pense que je suis pas fait pour les grosses productions, des choses comme ça. C'est très compliqué d'arriver à faire valoir ta liberté artistique dans un contexte comme ça. Donc du coup, je me suis mis à écrire. Et j'ai pas fait tant de romans que ça, mais j'ai écrit pas mal de trucs. Et c'est forcément tout le temps lié à ça. C'est mon premier roman, c'était là-dessus. J'ai écrit sur les pionniers du rock, sur les choses comme ça. Ouais, je pense que ça implique beaucoup de choses dans ce que je suis.
Oui,
aussi.
J'ai ressenti une mentalité d'enquêteur quand même. Tu me parlais d'Adam and the Ants, enfin Adam and the Ants, et ça, finalement, pas faible notoriété, mais le fait qu'il soit passé un peu sous les radars du punk, qu'on lui rend pas en fait.
Non, lui justice. Carrément.
On reviendra sur la scène punk en France, mais juste un mot. C'est ta posture quelque part d'enquêteur, d'écrivain enquêteur sur cette.
Non, c'est surtout que j'étais à 12-13 ans, j'étais très très fan d'Adam and the Ants. Et forcément, j'ai été écouter ce qu'ils faisaient à l'époque punk. Et je me suis toujours demandé pourquoi ce mec était aussi méprisé, quoi. Voilà. Et en fait, il a cherché un moment quand même. Parce
je pense qu'on l'a enfermé dans son rôle de nouveau romantique. Enfin, c'est les médias. Hein,
ouais, et puis après, lui, il a fait des. Voilà, il a fait un album qui était un peu de la soupe. Et puis, quand il a fait l'album Vive le Rock, personne n'a compris. Vive le Rock, c'était. Un clin d'œil à Vivienne Westwood. Voilà, Vive le Rock est sorti en 85, c'était pas la période la plus optimale. Donc j'ai eu envie, mais je l'ai fait il y a 2 ans, j'ai eu envie de faire un livre dessus. D'autant plus qu'aujourd'hui, il se produit un peu partout en Angleterre, aux États-Unis. Il a vraiment du succès. Enfin, ça marche bien. Et enfin, enfin, on parle de lui comme un punk, quoi. Et il y a eu un film, un documentaire qui a été fait sur lui. Je t'en avais parlé pour votre truc de recherche, qui s'appelle, de Blue Black Hussar, qui raconte tout son. En fait, il est revenu par les petits clubs londoniens. Il a joué pendant 2 ans dans des petits clubs où il s'invitait tout seul avec une guitare, etc. Et puis il a fini par remonter un groupe et à nouveau tourner. Et en France, évidemment, ça n'a jamais marché à la Main Indian. Je crois que c'est un des seuls pays d'Europe où ça n'a vraiment pas pris. Ça marche bien en Allemagne.
Ce que je te propose, peut-être, c'est de nous montrer quelques images, alors, pour le coup, et puis éventuellement de les commenter.
Ouais,
tu me dis quand j'arrête. Voilà, on prend le temps que tu veux, en fait, en réalité.
Ouais, je sais pas, quoi, 2-3 minutes hein,
ah, 2-3 minutes, c'est... et puis on.
Je crois que voilà. C'est le passage où, justement, sur le mouvement, sur l'émergence du mouvement punk. Hein. Et donc, il y a des images d'une interview que j'avais fait, enfin, d'une conversation avec Daniel. Et...
Que c'est les Sex Pistols, quand même.
Garçon moderne, ça vient d'où, ça malentendu
c'est un malentendu, bon, ça vient en grande partie d'actuel, d'un article qu'ils avaient fait, les jeunes hommes modernes aiment leur maman, bon, et d'une sorte, oui, vraiment de malentendu, parce que bon, ils mettaient des cravates, ils avaient les cheveux courts, bon, pour, je suppose, faire plus ou moins mode début années 60, et les gens qui connaissaient pas l'histoire du rock, ils trouvaient trop bien et tout, ont pris ça pour autre chose, quoi. Puis c'est vrai que certains ont joué un peu le jeu, et Taxi Bior, c'était vraiment drôle, quoi. Vous voyez, le premier concert au Bain Douche, où il massacrait Imagination, No Fun, les morceaux des Doors, et l'image superficielle de chercher le garçon, le mannequin et tout, quoi. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de contresens, mais qui est pas bien grave, dans le sens où dans l'histoire, il y a plein de... deux groupes de rock'n'roll même outrés, par exemple, qui ont eu leur succès avec un hit qui ne leur ressemblait pas vraiment. Et puis je veux dire, bon, ce qui compte, c'est d'avoir un hit, ils l'ont eu.
Quand des groupes comme Taxi Girl, etc. sont apparus, effectivement, ils avaient quelque chose de plus.
Ils étaient partagés entre l'image que leur imposait un peu Alexis et, je veux dire, leur tendance profonde. Bon, on sait le complexe de Daniel envers le rock'n'roll et tout, ça l'embêtait tellement de jouer avec un clavier. Il en rajoutait de tous les côtés possibles pour bien prouver à la face du monde entier que c'était un vrai rocker et que c'était pas de sa faute s'il avait des succès dans les hit parades ou qu'il avait un clavier dans son groupe. Enfin bon, en gros, comment Daniel a vécu le Taxi Girl, c'est ça, c'est pour ça qu'il a outré son parcours, quoi, en fait, quoi, pour se faire racheter de cette faute imaginaire, quoi.
Je suis un rocker, ouais. Non. Non, ouais. Il y a un mec qui a dit ouais. Ouais.
Et quoi qu'on dise Daniel, je sais qu'il aime pas trop cette première période, mais c'était quand même, c'était un très bon groupe. Bon, faut se remettre 15 ans avant. Il y a des très très belles chansons. Tu avais un manager, Alexis. Il leur a fait faire d'abord des 45 tours, mannequin, chercher le garçon. Les 45 tours sont appuyés sur des campagnes promo énormes, sur des campagnes de fanzines énormes. L'image du groupe était très importante. Et après, ils ont commencé à faire l'album. Mais Taxi Girl était très très important parce que l'image de Taxi Girl, c'était un groupe français que quand moi j'étais au Bahut, j'avais 13-14 ans, je pouvais écouter sans honte. J'avais un peu honte d'écouter Téléphone, je l'écoutais pas d'ailleurs, ni Trust. Mais j'avais pas honte d'écouter les Clash, j'avais pas honte d'écouter les Cramps. Et Taxi Girl, c'était l'un des rares groupes que tu avais envie d'écouter. L'album c'est beaucoup, c'est un des 10 meilleurs albums de rock français. Tout, il y a tout dedans, il y a des paroles très très dures, très très noires. C'est pas évident d'écrire des paroles en français. Et Daniel a ce don.
C'était à propos l'association Taxi Girl.
Ah ouais.
Tous les trucs là,
d'actuel. Ouais, mais non, mais c'était un coup. De toute façon, dès le départ, on a été taxé. Enfin, tous les mecs qui avaient en même temps que nous, Modern Guy, Artefact, d'autres Suicide en même temps, machin. Ils nous ont appelé néo-romantique, garçon moderne, machin truc. Enfin, néo-romantique. Ce qui me gonflait vraiment, parce que bon, c'était. Mais c'est vrai qu'on était assez ambigu là-dessus, quoi. Parce que bon, on a joué, là. On avait un manager qui était rusé. Après, ça c'est tassé, parce qu'on avait commencé à avoir. On a tellement voulu jouer, crédibilité, enfin, c'était facile d'ailleurs. Qu'on l'a eu vraiment, quoi. Et là, il y a eu Pierre qui est mort, il y a eu. On était en tôle, on a fait des conneries. Et là, bon, on a été respecté. En tant que néo-romantique, vraiment, c'était plus tellement ce qui convenait, quoi. C'était plus wild.
Bon voilà, merci Marc pour ces premières images. Tu voulais revenir un petit peu plus loin ou plus en avant, je sais pas, pour nous montrer deux, trois autres trucs. Si vous avez des questions ou des remarques à faire sur ce qui vient d'être évoqué, sur le Taxi Girl, Daniel Darc, sur ce rapport à la scène punk qui peut être questionné, hein, à la fois à travers le genre musical, à travers la posture. Bon, on vient de voir quand même quelques images qui sont un petit peu moins lisses, même de Chercher le garçon, hein, que la production qu'on connaît habituellement, hein, c'est plus rugueux. Donc, je sais pas, vous avez la parole pendant qu'on cherche.
C'est juste pour commencer, il y a toute une scène, moi j'ai beaucoup aimé française, tous les Amanda Woodward et ce genre de trucs. Donc assez émo, etc. Donc où on parle quand même, on a un propos sur la société, mais aussi de comment dire, comment on la vit, et dans une démarche très comment dire, bon, on l'a eu avec Caméra Silence, etc. Mais qui a été réinventée avec ce qu'on appelle l'émo, etc. En France. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des liens qui peuvent être faits avec Daniel Darc. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent cette scène, mais ça peut être aussi peut-être une entrée avec toute cette scène emo, screamo de Amanda Woodward, d'Aitro et tous ces groupes-là français pour faire un lien avec le punk et Daniel Darc. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, si ça intéresse quelqu'un, ben, voilà.
Bon, Manuel lance un débat sur la question. Entre Taxi Girl, Daniel Darc et la scène emo, bon, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, c'est pas grave. C'est, en tout cas, c'est belle tentative, Manuel, sur la question du. Il y a une réponse au fond. En tout cas, ça repose évidemment la question du genre musical, hein, qui est toujours une vraie question. J'évoquais ce matin la question de l'authenticité et de la stylistique. Évidemment, quand on écoute Taxi Girl, il y a du clavier, etc. On se dit ouais, mais il y avait aussi du clavier dans les Stranglers, avec des types qui jouaient hyper bien. Hein, Dave Greenfield, quand il joue, quand on l'écoute jouer, on sait d'où il vient. Laurent Miller, c'était pareil. Hein, c'était bon. Voilà. Alors la question du genre, on t'écoute.
La question que je voulais poser, c'était aussi ce que. Voilà. Parce que je ne sais pas tout ce qu'a traité le programme PIN, qui est déjà très prolifique, mais ce qui est intéressant aussi avec Daniel Darc, c'est qu'il y a, à un moment donné, il a un travail qui est plus littéraire aussi. Enfin, il écrit, moi je l'ai croisé à l'époque où il était avec, pas des fanzines, mais justement avec des éditeurs underground où il écrivait de la poésie ou ce genre de choses. Donc là, il y a eu aussi une partie du punk qui a débouché aussi sur des tentatives, sur une écriture punk qui n'était pas forcément directement liée à la musique.
Mais justement, c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup chez Daniel, c'est qu'il a amené c'est pas le seul, il y a eu d'autres paroliers qui étaient bien, mais pour moi, c'était celui qui a amené le plus de densité dans ce qu'il faisait, et voilà, qui était plus littéraire. Effectivement, il a continué, il a toujours eu envie de publier un roman qu'il n'a jamais publié, mais il a toujours, parce que son mode de vie faisait que c'était compliqué. Mais en dehors de ça, il écrivait. Voilà, il a écrit pour un tas. Et effectivement, il travaillait beaucoup pour des fanzines. Il était toujours prêt à faire un texte pour un fanzine. Et dès les années 80, il y a quelques textes comme ça qui existent, notamment dans une revue qui s'appelle Samouraï, et qui sont des textes vraiment bien. Et puis ensuite, il a bossé pour la salle de bain. Derrière la salle de bain, voilà, il a fait quelques publications. Et là, j'essaie de les réunir justement pour faire un. J'aimerais publier un bouquin, un recueil de tous ces textes, parce que j'ai pas mal d'inédits, et que j'ai relus et que je trouve plutôt bien. Ouais. Enfin, plutôt très bien, d'ailleurs. Et ouais, mais c'est toujours très éparse, hein, c'est marrant. Et il a pas mal bossé aussi pour Best, quand Best n'allait pas très bien. Il faisait, tous les mois, il faisait un portrait d'un artiste qu'il aimait, qui sont des beaux portraits. Ouais.
Alors pour les plus jeunes, Best, c'était le concurrent de Rock and Folk.
Ah ouais. Hein. Voilà. Et l'écriture, c'était grandi. Je pense que c'est quand même un des artistes français qui a amené des paroles. Enfin voilà, c'est un des grands paroliers français, quoi. Pour Gainsbourg a beaucoup marqué les gens, mais qui écoute bien ce qui sort encore aujourd'hui, mais même à l'époque, Daniel a beaucoup influencé la façon d'écrire. De nombreux artistes, ça va du rock jusqu'à la variété pour moi, en fait, son influence, même dans la façon de poser sa voix d'ailleurs, jusque-là, mais dans l'écriture aussi, ouais, la façon d'utiliser, je sais pas, le truc connu de Daniel, c'est le qu'est-ce que ça peut faire, enfin, je pense que c'est vraiment t'écoutes certains morceaux de La Voix, Nobispo, enfin, des gens comme ça, ils ont beaucoup emprunté là-dessus, et d'ailleurs, ils le reconnaissent, enfin, La Voix ne l'a reconnu de toute façon. Ouais. Mais ouais, il a eu une influence majeure sur et qui continue aujourd'hui. Je pense qu'il y a il y a deux ans, je crois que c'était Fauve, hein, qui avait utilisé des Paris. Enfin voilà, j'ai vu pas mal de choses autour de Paris, la chanson Paris. D'ailleurs, deux petites nanas qui font un truc autour de ça. Enfin encore aujourd'hui. Ouais.
Une autre question, oui, Yann.
Par rapport à l'authenticité, les quelques images qu'on vient de voir au Gibus, moi je les trouve très intéressantes au niveau musical, parce que j'ai toujours pensé que les groupes punk, surtout au début, ont eu beaucoup de mal à passer le cap du studio, et que le studio a souvent édulcoré le son des groupes, et je trouve que ça c'est extrêmement intéressant, parce que moi j'ai un groupe dont je suis fanatique, qui est peu connu, qui s'appelle les Screamers, groupe américain qui a jamais réalisé de disque, qui a un groupe fabuleux, et je trouve que le son de clavier qu'on a là, c'est le son de clavier des Screamers, et je trouve ça assez impressionnant de cette parallèle, parce que l'escrimeur, c'est réellement fabuleux. Et là, le son de clavier est exactement le même. Et je tenais à le préciser, parce que là, on se dit qu'effectivement, le son qu'on entend, il est punk. Et je pense que pour les anglo-saxons aussi, le punk, les claviers, il y en avait. Il y a eu des gens comme The Normal, qui a fait des 45 tours fabuleux, c'était rangé dans le punk. Je veux dire, il y avait Cabaret Voltaire, Nag Nag Nag, on est à la limite aussi. Il y a plein de choses qui étaient à la limite. Et là, on retrouve la limite, justement. Et je trouve ça vraiment, ces images-là, pour moi, c'est vraiment intéressant de les avoir. Merci.
Merci. Ouais, mais c'est... En plus, c'est Laurent Sinclair, c'était un excellent clavier, quoi. C'était le seul qui savait jouer, d'ailleurs, à la base. Dans Taxi Girl, c'était le seul vrai musicien. Voilà. Juste une pensée pour lui, il est mort il y a un mois, je crois. Et voilà. C'est quelqu'un qui est passé à côté de lui.
Ce que Yann évoque est très important, c'est-à-dire la différence entre qui est produit artistiquement et qu'on peut entendre vendu, et puis ce qui se passe sur scène, hein. C'est-à-dire le vrai côté punk en fait du groupe, il est en live. Mais... au moment où les types ils envoient du bois et où le son du clavier est rugueux, où on chante approximativement et où on est sur l'énergie.
Mais justement, t'as ça dans les Taxi Girl, c'était, il y avait Chorus qui les avait filmés en, je crois que c'est en 80 ou en 79 au Palace. Et c'est un moment, je crois, qu'on peut le trouver sur YouTube. Et tu vois vraiment la différence des morceaux par rapport à la production en album, en studio, et la version live qui est très, ouais, qui est comme vous dites, qui est super rugueuse, qui est vraiment très. Et il y a ce morceau-là, enfin il y a cet extrait de concert et un album qui est sorti dans les années 80, qui est un live de Taxi Girl, s'appelle Quelque part dans Paris. Où vraiment on a ce son-là pour tous les morceaux de Taxi Girl. Il y a n'importe quel soir. Et c'est vraiment, effectivement, le passage du live, je te montre vraiment, il y a toute l'énergie du groupe et tout enfin, c'est ça. Mais j'aime bien cette différence-là.
Une autre remarque qui me semble-t-il n'est pas accessoire, c'est qu'ils montent leur propre label.
Ah ouais, ça a été un des premiers. Ouais, c'était un énorme truc, sauf qu'ils n'étaient pas assez adaptés. C'est pas des businessmen, donc ils ont peu. Mais Mannequin a été très important, un tout petit. Ça n'a pas duré longtemps. Mais dès qu'ils ont eu de l'argent, l'idée a été de la réinvestir pour avoir les moyens d'être libres, totalement libres. Donc ils ont créé Mannequin, qui était, je crois que c'était au sein de Virgin, mais en même temps ils avaient les coups des franches. Et ils ont produit un tas de 45 tours des civils, le premier 45 tours des civils. Ils ont fait après des trucs un peu plus. Ils ont fait Bandolero, ils ont fait. Clap Machine, j'en oublie, il y en a, je crois qu'il y a une dizaine. Mirwes a produit des trucs également. Mannequin était une vraie tentative, je crois que c'est la première, pour se dégager des majors et faire des choses, qu'ils voulaient à leur manière et comme ils le voulaient. Le seul souci, c'est que pour ça, il aurait fallu avoir quelqu'un qui soit un solide gestionnaire, businessman, je sais pas, et qu'ils étaient trop éclaté dans tous les sens pour pouvoir gérer ça d'une façon stricte. Mais ça a été un vrai moment important. Ouais. Ça a duré un an, je crois, ou peut-être un peu plus, deux ans.
On regarde d'autres images, peut-être
J'ai calé au début. Je pense que c'est là.
On aura peut-être une autre série de questions.
Voilà. Normalement, il y a Zermati, il doit y avoir Dao.
Vas-y.
Je suis libre, ok. J'ai mis le début.
En 77, les marchands sont toute une scène nouvelle française qui arrive. Et moi, ce que je voulais savoir par rapport à ça, Étienne, c'était, je crois que tu étais à Rennes. Quel était ton regard sur cette scène? Tu la connaissais, ce que vous impliquiez? C'était un mouvement qui...
Je la connaissais parce que c'est le premier mouvement auquel j'ai participé. Enfin, j'ai eu l'impression de participer à quelque chose, donc c'était vraiment excitant. Ça l'a été pour tous les gens de cette génération. Quand on a l'impression d'être un élément, pas moteur, mais même suiveur, c'est déjà intéressant. Okay. De faire partie de cette espèce d'énergie comme ça. Et,
à Rennes, il y avait vraiment une scène, même en 77.
Il y avait une scène qui était un petit peu différente. C'est vrai qu'on était tous axés sur Paris. Donc à l'époque, les journaux, c'était Rock and Folk. Et Best, surtout Rock and Folk d'ailleurs, qui avait toute une page consacrée à la scène parisienne. Donc il y avait toujours plein de petits télégrammes et de petites choses. On savait que Metal Urbain avait fait ci, Stinky Toys avait fait autre chose.
Mmh.
dire un truc. Quand j'étais tout petit, comme ça, j'étais chanteur de rock and roll. Donc, avec mes amis de Lafayette, nous avons interprété un classique de cette époque.
Je sais que j'ai jamais été hippie en fait, je suis pas le seul.
On a commencé à monter un groupe en réaction avec toute la musique qu'il y avait à l'époque, toute la musique qui était issue du mouvement hippie, cheveux longs, parka militaire, que c'était des gens assez ennuyeux, qui quand ils allaient voir un concert, qui n'était plus d'ailleurs des concerts de rock, qui étaient devenus des concerts de musique progressive, s'asseyaient par terre pendant tout le concert, et nous on avait envie de rock'n'roll.
Parce qu'il fallait absolument faire quelque chose, même en Angleterre. L'Angleterre était noyée sous la disco.
Nous, on avait besoin de cette musique, comme elle n'existait pas, bah on l'a créée.
Que nous on n'avait pas à l'époque, cette espèce de regard froid et punk. On n'était pas vraiment punk, alors c'était le moment du punk. Moi j'étais punk rebelle, j'avais envie de tout casser, mais eux ils le faisaient d'une manière déjà intelligente. Il faut être suicidaire pour faire du rock ou pour être chanteur comme ça, il faut aimer se montrer. Ou... Bon, puis lui il a fait son acte de bravoure, de s'ouvrir les veines. À l'Olympia, et ça, c'est un truc qui a marqué.
C'est rien qu'un passant qui voudrait s'arrêter. Je ne suis rien, vraiment.
Merci Marc pour ces images. Assez émouvantes. Hein. C'est vrai, Lily Drop, Olive, on n'en a pas reparlé. Et puis Alain Kahn. Pas mal de gens qui sont plus là. Toute cette scène-là, tu l'as côtoyée, tu l'as filmée.
Ouais, Olive, c'est bien connu. Ouais, ouais. Olive, c'était. Mais c'est, pour moi, c'est un des trucs les plus. C'est un gâchis absolu, quoi. Il y a trois disques d'Olive. Je trouve que ce qu'il écrivait était vraiment, vraiment. C'est incroyable qu'il ait pas eu les moyens de faire plus de choses, quoi. Surtout Olive. Alain Kahn, je l'ai pas connu forcément. Il avait disparu. Mais à l'époque c'était d'ailleurs tout le monde le cherchait, quoi. Il avait disparu depuis 2 ans, je crois. Il est disparu en... et c'était une espèce de légende comme ça qui traînait dans Paris. Mais Olive, ouais, c'est un crève-cœur là, Olive, pour le coup, vraiment. C'est quelqu'un qui aurait dû faire plein de disques et qui s'est retrouvé. Il y a eu Lily Drop, il y a eu 2 albums et puis ensuite 2 singles et puis un trou énorme, un album, et c'était terminé. Voilà. Et je crois qu'il est mort en 2006. Donc... Mais ce qu'il dit sur Taxi Girl est très, c'est ce que je te disais tout à l'heure, cette espèce d'idée de deuxième vague. Voilà, il explique arrive un groupe vraiment froid. Il y avait toute cette espèce de ils étaient plus marqués, enfin ils étaient marqués par le punk et par des groupes comme Kraftwerk, etc., un truc plus industriel qui correspondait bien à l'époque aussi, à l'Europe des années 80. Il y avait des films comme l'affaire des divisions Morituri, des choses très froides comme ça. C'était bien. C'était
au dans début, leur temps. au début des images, on voit Étienne Daho, ouais. Donc on connaît sa carrière, mais on connaît moins ses enracinements dans le punk. Ce qui est assez frappant, c'est que finalement, enfin, on pourrait mettre ça en parallèle avec d'autres trajectoires qu'on connaît bien, hein, Kent avec Star Shooter, ou Ellie Medeiros, évidemment avec Stinky Toys. Donc cette espèce de dynamique, enfin de matrice du punk, finalement capable de à la fois de générer des artistes, disons au départ en rébellion, et puis capable de s'inscrire dans un sillon artistique, de poursuivre une carrière, c'est quelque chose qui t'a intéressé.
Ouais. Ouais. Mais ce que je te disais tout à l'heure, 89-90, c'est vraiment l'époque où tous ces gens-là essayent d'avoir une carrière solo, et je trouvais ça vraiment c'était plus que, parce qu'ils avaient beau faire de la pop, une musique plus facile, peut-être pas punk, il y avait quelque chose qui était là, qui était dans les paroles, hein. Il y avait une façon d'écrire que je trouve encore très intelligent. Et Daho a été le premier disque est quand même produit par Franck Darcel, mais c'est le premier à pas avoir fait vraiment une musique punk. Il avait tout de suite fait de la pop, mais il était vraiment il montait des concerts punk à Rennes, il était vraiment inscrit dans cette mouvance là hein. Il connaissait très très bien Élie et Jacquenot, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Élie Jacquenot, c'est l'exemple parfait de la métamorphose de ces groupes. Stinky Toys, qui est un groupe vraiment punk, et ils deviennent Élie et Jacquenot, un groupe pop capable de produire des tubes pour Lio, etc. Mais j'ai jamais trouvé qu'il y avait un truc qui soit genre ils sont vendus ou ils ont perdu quelque chose. Je trouve que c'était une métamorphose intelligente.
Et ils ont fait des choses. Je parlais bien du punk comme matrice pour aller au-delà, quoi, pour créer autre chose. Peut-être que merci Marc, hein, pour toutes ces réponses, pour ces images. Peut-être avant de passer à autre chose, des quelques questions, quelques remarques sur ce travail de Marc. Oui, François.
Moi, j'ai pas connu Daniel Darc. Je l'ai croisé une seule fois dans un club, un petit club de concert où jouait Edith Milon. Et déjà, il y avait une sorte de clivage. C'est-à-dire que nous, on était venus pour voir Edith Milon, qui était plus punk. Et déjà, Taxi Girl, qui était pourtant looké un peu comme métal urbain, avec des impairs noirs, très gestapo.
Ouais, il y a des photos.
Ils étaient sur une pente cold wave, new wave déjà, pour nous.
Ah ouais, puis ils avaient une image comme ça, très froide, de groupe qui se la joue un peu aussi. Ouais,
et après, je pense que ça, il écrit très bien, il le dit très bien avec le concept de garçon moderne, c'est qu'ils étaient beaucoup plus liés à la scène peut-être homo, hein, ou des clubs.
Il l'a fait, ça. Oui, en plus, Daniel a pris la position de dire, bisexualité, machin et tout ça.
Ils se sont engagés dans leur propre. Ils en ont joué aussi un petit peu.
Oui, bien sûr.
Et du coup, je pense, la jeune génération qui venait après, qui était un peu plus jeune, on n'a pas du tout accroché, évidemment, à chercher le garçon et tout ça. Ça nous est passé. Ou des groupes comme Mathématiques Modernes, ou tout le monde a versé dans la New Wave après. Et ça, on détestait carrément.
Quoi. Ouais, mais je me souviens, il y avait.
D'ailleurs, moi, à titre personnel, les Stranglers, j'ai jamais aimé à cause du clavier. Mais et pourtant, je pourrais le réécouter aujourd'hui. Mais c'est un truc qui m'a jamais accroché musicalement.
C'est ce que je disais tout à l'heure. À l'époque, avec.
Alors que Patti Smith me parlait. Ouais, c'est bizarre. Hein.
Mais c'est bizarre.
Il y avait un truc quand même à l'époque. Il y avait des clivages très forts. C'était des trucs de crédibilité. Ça finissait en bagarre, quoi. Moi, je me rappelle de Bachung. Tu pouvais pas dire deux mots sur Bachung. Bachung, c'était vraiment une espèce de variétoche dégueulasse. Et ça prenait une forme. J'étais fan d'Elvis déjà à l'époque. Alors, tu te faisais casser la gueule parce que t'étais un rocker, quoi. Mais c'est des trucs qui existent plus aujourd'hui parce qu'il y a une espèce de. Tout ça, ça s'est fondu dans un truc, Bachung, voilà. Mais à l'époque, c'était des trucs. Il y avait des fractions, des factions, je sais pas, mais c'était très, 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 très rude entre, voilà.
Le rapport à telle ou telle type d'identité très par rapport aux genres musicaux était probablement plus marqué, je pense.
Il se faisait pas de cadeaux, hein. Il se faisait pas de cadeaux.
Voto ?
Ouais, moi je fréquentais Daniel et il souffrait beaucoup de cette image chercher le garçon. Enfin, tout le monde se foutait de sa gueule, quoi. Je veux dire, c'était la gay wave, quoi. Et par contre, à côté de ça, il avait des fréquentations sincères et c'est le seul qui a écrit une chanson sur Maxwell qui s'appelle Psaume. Et donc voilà, ça ça c'était sa vraie famille d'amis. Et quand il devait aller faire le guignol sur scène, il devait s'habiller en rouge et noir comme Malcolm avait fait avec les Yorg Dolls, ça lui foutait un peu la honte. C'était le grand drame de sa vie, c'est-à-dire que ça marchait dans la case qui n'était pas vraiment son cru et ce qu'il voulait vraiment faire. Par contre, bravo, il y a eu une deuxième vague. Et là, quand il est revenu après avec Crève-Cœur, alors là, voilà, on a eu accès au.
Nijinsky, c'était déjà. Mais ça l'a, il le dit au début du film, il dit voilà, on nous prenait pour Duran Duran, ça me fait chier. Ça, et bien sûr que ça l'emmerdait. Mais en même temps, il avait. Quand il y avait eu le film de Villarmé, etc., Taxi Girl, ils avaient beau faire de la pop en 84, 85, ils avaient une image très, très intello aussi. Enfin, et Daniel aimait le côté Japon, samouraï, etc. Il jouait de ça. Enfin, c'était un truc qu'il passionnait aussi. Et autant il pouvait aimer être avec ou Maxwell ou Snuff, etc. Et autant il avait une capacité un éventail qui était tellement large qu'il pouvait faire les deux, mais il voulait se priver de rien. Et en même temps, effectivement, toute l'image chercher le garçon l'a emmerdé à peu près jusqu'à ce que la Star Academy le reprenne et qu'il se passe un peu de fric et qu'il se dise bah finalement c'est pas si mal quoi. Ouais.
Ben merci Marc, on va toujours arrêter, vraiment merci, un grand grand merci à Marc pour cette présentation et bravo pour ce film qui est vraiment, moi je vous conseille d'aller le voir, c'est de l'émotion pure quoi, qu'on aime ou qu'on aime pas Daniel, c'est de l'émotion pure. Merci Marc, merci beaucoup. Merci.